Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, je suis Mélanie Wanga. Quand on parle de racisme en France, on pense généralement aux populations noires et arabes. Pourtant, ces dernières années, grâce aux réseaux sociaux, d'autres minorités peuvent prendre la parole et être entendues. Parmi elles, les personnes asiatiques. Alors, quels sont les événements marquants du racisme anti-asiatique chez nous? On peut citer le sketch raciste « Les Chinois » de Gad Elmaleh et Kev Adams en 2018, qui caricaturait grossièrement les Asiatiques à grand renfort d'accents exagérés et de stéréotypes franchement débiles.
Pour toi, sushi, chinois, japonais, c'est la même chose, c'est le même délire.
Ça, c'est accent chinois. Okay. Japonais, c'est plus.
Ok. Et tu sais ce que ça veut dire ou tu t'improvises?
Ça veut dire « J'adore les sushis ».
Mais aussi les agressions régulières de personnes asiatiques, dont celle de Xiaoling Xiang en 2016, un couturier d'Aubervilliers. Un événement qui avait donné lieu à de grandes manifestations. Et puis, il y a la mort de Liu Xiaoyao en mars 2017, tué par un tir de la BAC alors qu'il utilisait des ciseaux. Suite à ces différents événements, on a pu observer l'émergence d'une nouvelle forme de militantisme, les prémices d'un antiracisme asiatique politique qui reconnaît le caractère systémique du racisme. Entre files de messages éducatifs sur l'appropriation culturelle, la fétichisation ou encore le colonialisme, une nouvelle génération de militantes et militants se sont exprimés via les réseaux sociaux et notamment Twitter. Qui sont-ils ? Et qui sont-elles ? Et quelles sont leurs revendications ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Grace est française, d'origine chinoise, écrivaine et réalisatrice. Elle a notamment créé le blog La Petite Banane, parce que jaune dehors et blanc dedans, et la web-série Ça reste entre nous. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans le podcast Kif Taras, qu'elle co-anime avec Rokaya Diallo sur Binge Audio. Elle parle beaucoup de son expérience du racisme anti-asiatique, et je lui ai donc demandé comment, selon elle, il s'exprime en France en 2019.
Je crois que c'est assez singulier parce que le racisme anti-asiatique existe depuis très longtemps quand même, enfin comme tout le racisme, il existe depuis, peut-être le 19e siècle, voilà, il y a vraiment un sentiment nourri qui existe depuis lors, et sa manifestation dans l'espace public, et on nous appelle toujours les personnes discrètes, comme si nos problèmes aussi étaient discrets, et qu'on ne les... On n'était pas assez vocaux, on ne parlait pas assez fort, qu'on rasait trop les murs. Voilà. Et vraiment cette idée, ce cliché qui a collé à la peau des personnes asiatiques pendant très longtemps se ressent aussi du côté médiatique, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Et d'ailleurs récemment, maintenant, on dit qu'il y a une résurgence ou en tout cas le fait qu'on parle beaucoup plus des problèmes des personnes asiatiques ces derniers temps. Et je pense que ça, c'est aussi lié aux personnes qui portent ces messages-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont dénoncé le racisme anti-asiatique, qui sont des personnes plus jeunes d'une génération, la génération d'après de mes parents en tout cas. Bah, je pense... 20, 30 ans, moi je connais des personnes issues de la deuxième génération, c'est-à-dire qui sont nées en France de parents asiatiques, donc de toute l'Asie, mais notamment Vietnam, Laos, Cambodge, ex-Indochine donc, et aussi de Chine. Et ces personnes qui sont nées en France, qui ont les outils pour s'exprimer et qui n'ont pas de problème d'accès à la parole en fait, ils expriment aujourd'hui très bien ces questions-là.
C'est vrai qu'on a assisté, en fait, notamment grâce aux réseaux sociaux, à une espèce de montée en puissance, si on peut dire, de ces militants et militantes qui, du coup, ces personnes-là, j'ai l'impression, ont relaté leurs expériences, mais ont réussi à politiser aussi leurs propos. Donc c'est quand même assez intéressant. Et comment vous l'analysez ?
Mais je pense que le racisme, aujourd'hui, on a quand même fait du chemin. Il est de moins en moins un racisme moral et plus en plus un racisme politique. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est la voie que prennent les choses. Ce n'est pas juste « Ah, c'est pas bien d'être raciste », mais plus « Ah, le système a entériné des structures, des réflexes racistes et il faut aujourd'hui qu'on les change. Voilà. Donc je pense que ces jeunes, ces personnes plus jeunes, en tout cas, qui ont pris la parole, elles ont pris ce tournant-là. Elles ont pris cette nouvelle, ce nouveau souffle de l'antiracisme qui est de dire, écoutez, ce n'est pas contre vous personnellement, mais c'est contre cette société qui permet ce genre de choses, qui autorise le racisme anti-asiatique et qui, du coup, perpétue ces stéréotypes, ces clichés, cette violence envers ces personnes.
Votre réveil militant à vous, il est arrivé quand, il est arrivé comment? Vous en avez déjà un peu parlé dans le podcast Kif Tarast, mais j'aimerais bien que vous en parliez ici aussi.
Alors moi, j'ai un réveil très tardif, en réalité, parce que je me suis posé des questions quand j'ai connu la maternité. J'étais très très mal dans ma peau quand j'étais enfant du fait de ne pas accepter ma différence. Et quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit qu'il fallait absolument que je leur épargne ça. Bon, on épargne ce qu'on peut à nos enfants, mais en tout cas j'ai souhaité le faire. Et j'ai eu moi-même une réflexion. Donc c'était il y a pas longtemps puisque j'ai eu mon enfant. J'étais enceinte, j'avais 28 ans, donc ça fait à peu près 10 ans. Du coup, je me suis documentée et j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont montré des choses à lire, à écouter, etc. Et c'est venu assez tardivement, mais du coup, j'essaie de me rattraper et de faire en sorte d'être la plus efficace possible sur ce terrain-là.
Et vous avez écrit un roman, du coup, qui est votre premier roman, qui est sorti chez Fayard en 2018, c'est ça, hein, et qui raconte les expériences de double culture d'un personnage qui s'appelle Chichi. Ouais. Et donc, je suppose que c'est un peu inspiré de votre expérience et de celle peut-être de beaucoup de personnes asiatiques en France. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
J'ai voulu donner vie à ce personnage qui s'appelle Chichi, qui est d'origine asiatique et française. Et déjà, rien qu'un personnage français aux origines asiatiques, pour moi, c'était important parce que quand j'étais plus petite, il n'y en avait pas. Soit c'était des personnes asiatiques, donc chinoises, etc., qui nécessitaient d'avoir une traduction en français, ou c'était des personnes françaises blanches qui prenaient la parole et qui racontaient les histoires dans lesquelles je me projetais. Et j'ai vraiment, pour moi, c'est important que ce soit une française comme les autres, mais qui a des origines asiatiques, qui s'intègre complètement dans son environnement de vie et qui donc relate les petites choses qui font qu'elle se sent parfois pas assez française et parfois les choses qu'elle aimerait changer dans la société. Comme par exemple, il y a des choses, par exemple, moi je parle souvent de cette expression « parler chinois ». On dit souvent ça aujourd'hui, « tu me parles chinois » comme si c'était quelque chose de « moi si vous me parlez chinois, je comprends très bien en fait ». Et ça n'a aucun... Donc en fait, c'est hérité du passé, ça, le fait que le chinois c'est difficile et que lorsque vous me parlez chinois, vous voulez m'embrouiller parce que vous seriez fourbe, vous les chinois, les asiatiques de manière générale. Ça, c'est des images pour moi qui sont héritées du passé. Alors que vous me parleriez russe ou vous me parleriez italien, voilà, je ne comprendrais rien et pour moi ce serait une manière peut-être de m'entourlouper. Mais vous ne diriez pas ça parce que c'est pas dans la langue française. Et ça, c'est des choses que je trouve qui sont. Voilà, je pense que ça suffit maintenant.
Il y a aussi, peut-être aussi beaucoup, vous en avez parlé, mais comment on se construit en fait dans une société où on est minoritaire en fait? Comment on se construit quand on a une double culture, qu'on est à la fois asiatique et française, et autour de nous, on ne se voit pas? Donc qu'est-ce que ça veut dire?
C'est ça, c'est lorsque... Pour revenir sur cette question de la langue, qui est très importante, je pense, quand je me suis construite moi, partout où j'allais, la langue chinoise était représentée comme une langue non seulement difficile, mais aussi risible. On me disait Ching Chong. Le Ching Chong, c'est vraiment lié au fait qu'on est l'autre et on sera éternellement autre. Et vraiment, cette question de dire, voilà, ta langue, on peut se moquer parce que ça fait, c'est drôle quand tu parles, on dirait Ching Chong. Et je trouve que ça, c'est vraiment aussi un héritage du passé colonial, humiliant pour ces personnes qui sont différentes du français de l'époque. En tout cas, aujourd'hui, il y a des personnes françaises qui parlent chinois et des personnes chinoises qui parlent français. Enfin, je veux dire, ça y est, c'est 2019.
La fierté d'être soi dans une société qui nous fait régulièrement comprendre que l'on est autre et pas dans la norme, ça coule pas nécessairement de source. La transmission de l'histoire ne s'est pas toujours faite facilement entre les générations, entre les parents et les enfants. Kelsey Fung est réalisatrice, auteurice. Via son compte Twitter, IL met en lumière le racisme anti-asiatique dans la culture à travers son histoire. Son éveil politique est venu progressivement au fur et à mesure des polémiques racistes, mais aussi de son questionnement autour de son identité LGBT.
pense que j'ai été éveillé à la question, déjà par rapport à mon identité personnelle. Mon père m'avait jamais vraiment parlé de l'histoire de notre famille et de l'immigration, de comment mes grands-parents étaient arrivés en France. Et je pense que c'est venu par des questions personnelles que j'avais du coup sur mon identité. En fait, j'ai commencé à prendre du recul du coup assez global par rapport à ça, par rapport aussi au domaine dans lequel je travaillais du coup de l'animation, des films, de l'audiovisuel, de me dire que en fait, on n'avait aucune représentation de l'immigration asiatique en France à la télévision, dans le cinéma. Pourquoi? Et du coup, ça m'a donné envie de me renseigner du coup sur l'histoire de tout ça. Ça m'a donné envie aussi de contacter mon grand-père avec qui on avait été pas mal, on avait du mal à communiquer, notamment par des questions à cause de questions de LGBT-phobie et que j'ai essayé de mettre de côté pour pouvoir accéder à son histoire. Et du coup, on a commencé à essayer d'en parler. Il a commencé à me raconter son histoire, comment il arrive en France. Etc. Et du coup, voilà, enfin, c'est comme ça que ça a démarré.
Et du coup, cette histoire, c'est pas quelque chose que vous auriez pu découvrir, ou en tout cas quelque chose auquel vous auriez pu avoir accès via, l'histoire classique qui est enseignée dans les écoles, collèges, lycées en France.
C'est sûr que quand on aborde l'immigration par rapport post-coloniale dans les populations asiatiques en France, dans l'éducation nationale en tout cas, quand on est au collège ou au lycée, on le jarte en un petit paragraphe, je pense. Enfin, genre, j'ai jamais eu de cours réel sur la guerre du Vietnam, sur la guerre entre les Français et les Vietnamiens d'avant les années 50. Je pense que clairement, c'est assez difficile, surtout en France, d'avoir accès à des ressources qui en parlent. Du coup, ouais, c'était assez important pour moi, en tout cas, d'avoir accès directement à ça en parlant au premier concerné, donc du coup à mon grand-père qui avait vécu la colonisation française. Et oui, clairement, du coup, c'est quelque chose qui est assez difficile d'accès, sinon, enfin, je pense, par d'autres moyens.
Et le fait d'en parler avec votre grand-père, ça vous a éclairé sur votre vie en tant qu'asiatique en France aujourd'hui?
Ouais, clairement. Et je pense aussi que ça m'a permis aussi de me réconcilier, entre guillemets, avec certains aspects de mon éducation aussi, parce que du coup, il y avait beaucoup de non-dits et de sévérité dans l'éducation que j'ai eue. Et aussi, pas mal de LGBT-phobie, de la part de mon grand-père. Et je pense que ça m'a aussi permis de l'excuser sur ces questions-là, notamment parce que j'ai appris plein de choses aussi de la façon dont étaient perçus les Vietnamiens pendant l'époque de la colonisation.
C'est-à-dire?
Par exemple, le fait qu'ils étaient considérés, enfin, que les hommes vietnamiens étaient considérés par les colons comme des femmes, en fait, et qu'ils étaient souvent violés. Ce genre de choses, en fait, ça m'a aussi permis de recontextualiser pourquoi les LGBT-phobies de mon grand-père étaient aussi présentes de façon assez taboue, etc. Je me suis aussi dit, ça m'a aussi permis de prendre du recul aussi sur cette appréciation-là.
Pour vous, c'est quoi les expressions du racisme anti-asiatique en France aujourd'hui? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui vous saute le plus aux yeux? Parce que malheureusement, on dit souvent c'est invisible. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit si invisible que ça pour les personnes asiatiques, et j'aimerais avoir votre opinion sur ça.
Je pense que les premiers trucs qu'on met en avant par rapport au racisme anti-asiatique, c'est tous les clichés qu'on a l'habitude d'entendre, qui sont liés au mythe de la minorité modèle, c'est-à-dire que les Asiatiques sont travailleurs, sont assidus, sont silencieux, n'ouvrent jamais quoi que ce soit. Et le truc, c'est que je pense qu'en France, par rapport justement aux questions de militantisme asiatique, c'est que de ce qui est médiatisé, en tout cas globalement, c'est qu'on s'arrête souvent à ça, c'est-à-dire genre soit au canon de beauté, comme ce que j'ai pu voir récemment aussi d'ailleurs avec une campagne du coup de photos qui a été mise en place et qui met en avant le fait que les hommes asiatiques peuvent être beaux et désirables et virils aussi comme les blancs. Mais je pense que je sais pas si vous en avez entendu parler.
Ouais, c'est comme s'il fallait tendre vers cet idéal-là alors qu'il est lui aussi toxique, quoi.
C'est ça, et du coup c'est que des comparaisons permanentes avec les standards de beauté blanc, avec comment s'intégrer le plus possible et se fondre dans la masse. Et je pense que du coup le truc à l'étape à faire par rapport à ces considérations là, c'est de comprendre comment le mythe de la minorité modèle s'est installé, et pas que aux États-Unis mais surtout en France. et pourquoi ça s'est installé, et du coup de recontextualiser ça.
Et pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez juste expliquer pourquoi c'est pas bien le mythe de la minorité modèle ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'est bien que les Asiatiques soient travailleurs et qu'ils aient des bonnes notes et qu'ils aient des boulots et tout. » Pourquoi, en fait, c'est un stéréotype qui est raciste et qui, en plus, a un impact négatif sur la vie des personnes asiatiques ?
Ouais, bah clairement, en fait, c'est parce que du coup, ça crée une sorte de compétition, du coup, entre les personnes racisées, et tout ce que ça fait, c'est que ça valorise encore la blanchité. Enfin, je veux dire, c'est un outil de domination. Ça déresponsabilise du coup la blanchité, et ça fait comme si du coup, les Asiatiques valaient mieux que d'autres personnes racisées, etc. Et ça empêche totalement aussi de remettre en question le racisme aussi, même au sein des communautés asiatiques, qui est assez prégnant et qui est important à remettre en question aussi.
Donc du racisme envers les autres communautés, c'est ça ?
Oui, bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, du coup, le mythe de la minorité modèle appuie ça, en fait, du coup, c'est-à-dire que, du coup, les Asiatiques qui se complaisent dans ce mythe de la minorité modèle créé par la blanchité vont avoir tendance à se prendre comme exemple en disant que eux ils ont au moins réussi là où d'autres communautés n'ont pas pu faire de même en travaillant, etc., etc. Alors qu'on sait, au final, les principes de l'immigration et de vulnérabilisation ont été similaires par rapport à l'accueil qui a été réservé du coup aux populations asiatiques, et il y a un certain oubli de ce qui a été commis vis-à-vis des Asiatiques, notamment par rapport aux camps d'internement qui continuaient de faire perdurer l'ordre colonial, etc. Je sais pas, nuire aux autres communautés plutôt que de considérer du coup ce qui a été fait par les Blancs et du coup dénoncer ça. Et je pense que c'est important, du coup, quand on parle de la minorité modèle, de pouvoir du coup replacer justement le contexte de l'arrivée en France des personnes asiatiques, en tout cas dans le cas de l'histoire de ma famille, des personnes sud-est asiatiques, qui étaient exécrables par rapport à justement ces camps, dont on parle dans d'ailleurs un documentaire qui est très très bien, qui réunit des témoignages qui sont assez rares, je pense, de Vietnamiens immigrés de première génération, qui s'appelle Le Camp des Oubliés, qui est disponible sur YouTube, il me semble, gratuitement. Mmh. Et justement, dedans, on voit bien que quand les communautés vietnamiennes immigrées essayaient de pouvoir l'ouvrir pour parler des conditions indéfendables qui avaient lieu dans ces camps, que ce soit de l'ordre des travaux forcés, de l'interdiction de parler vietnamien, de conversion au catholicisme, des conditions de vie épouvantables. En fait, du coup, quand ils essayaient de l'ouvrir, du coup, pour parler de ça, ils étaient automatiquement silenciés, et les responsables des camps les envoyaient dans d'autres instituts comme des asiles pour pouvoir les faire taire, quoi. Donc du coup, c'est en fait je pense que cette histoire là elle doit être réhabilitée aussi, parce que les Asiatiques ont dit que du coup ils ouvrent pas par rapport à ça, etc., mais en même temps il faut aussi
des raisons historiques, en fait, des
premières personnes qui sont arrivées, qui ont essayé de l'ouvrir du coup pour défendre même leurs enfants qui étaient là, qui étaient très jeunes, etc., et qui devaient grandir dans des conditions épouvantables. Et en fait, du coup, la silenciation, on n'en parle pas non plus, mais du coup, elle était extrêmement présente parce que du coup, l'ordre colonial était toujours en cours en France dans les années 50. Du coup, les générations, parfois deuxième génération, ou du coup cette génération aussi là, a essayé après de s'intégrer parce qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'il fallait trouver du travail, parce que du coup, il fallait
survivre,
nourrir la famille, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'on commence à dire que du coup, on parle un peu plus du racisme anti-asiatique par les générations actuelles. C'est aussi parce que du coup, nous, on a plus les moyens de le faire, parce qu'on a moins ces problématiques de devoir à tout prix chercher du travail pour pouvoir s'intégrer, parce qu'on parlait pas la langue ou quoi que ce soit, parce que ça, du coup, c'est nos grands-parents, quand ils sont arrivés, souvent ils parlaient pas la langue, et du coup tout était résumé du coup à travers juste le travail, nourrir, etc., mais c'était très très difficile de pouvoir l'ouvrir, en tout cas de pouvoir se défendre.
En parlant avec Kelsey Fung, j'ai retrouvé une partie de mon expérience en tant que Française avec un parent né en Afrique. La compréhension de mon histoire à travers les médias et les livres qui se découvrent chaque jour un peu plus comme une réalité qui était jusque-là obscurcie. Puis, le retour à la famille et les questions qui se posent à l'âge adulte pour résoudre ce que nous, on veut transmettre. Dans le cas des personnes asiatiques, une invisibilité forte plane sur leurs histoires. Les stéréotypes associés au mythe de la minorité modèle, travailleuse, silencieuse, pèse encore plus lourd sur une libération de la parole. C'est l'expérience de beaucoup de minorités dans notre pays. Et la raison pour laquelle la déconstruction et la compréhension des mécanismes de domination raciale en France n'est pas juste une affaire de politique ou d'histoire. Ce sont nos vies qui sont en jeu. Merci à Grace Lee et Kelsey Fung pour leur participation. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess et réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et retrouvez dès demain Thomas Rozek pour un nouvel épisode.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.